sur Internet ou dans des ateliers participatifs. Les Français sont invités à partir d'aujourd'hui et pendant 6 mois à réinventer leur système de retraite. Consultation citoyenne lancée par le gouvernement pour une loi qui devrait être votée à l'été 2019. Participation aussi des citoyens pour financer le patrimoine. L'appel en tout cas sera précisé ce jeudi par Emmanuel Macron avec l'officialisation d'un loto du patrimoine. 15 euros par ticket pour une enveloppe de 15 à 20 millions d'euros destinés aux établissements à protéger. Dans ce journal, nous nous intéresserons aussi à la Roumanie, où le président est contraint de révoquer la procureure du parquet anticorruption. La justice est un peu plus malmenée. Et puis, à Hambourg, en Allemagne, les véhicules diesel ne seront plus autorisés à partir d'aujourd'hui sur certains axes. Colère de l'industrie automobile. C'est sans doute la plus difficile des transformations à venir pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais il l'avait promis, réformer les retraites. Pour préparer le texte qui doit unifier les 42 systèmes pour plus d'équité, le gouvernement lance aujourd'hui une consultation citoyenne avec beaucoup de questions en suspens, Célia Kiré.
Comment créer un système de retraite universel où chaque euro cotisé donne à tous les mêmes droits? Le sujet est complexe, ultra technique, mais vous avez jusqu'au 25 octobre pour réfléchir. Et les questions posées dans cette consultation sont très ouvertes. Quel système de retraite pour tous les actifs? Quelle prise en compte des enfants dans le calcul des pensions? Comment corriger les inégalités hommes-femmes? Rien que ça. Et en parallèle, pas moins de 120 réunions sont prévues avec les syndicats sur ces mêmes questions jusqu'en décembre. Le but est d'en finir avec les 42 régimes de retraite actuels, dont les régimes spéciaux, comme celui de la SNCF. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, promet que cette réforme n'aboutira pas à un nivellement par le bas. Et il faudra bien maintenir certaines spécificités pour les indépendants, par exemple. Cette réforme est à très haut risque. Le gouvernement prend le temps de consulter. Il a d'ailleurs retardé son calendrier initial. Le vote de la loi est prévu pour 2019.
Et d'ici là donc, un site internet participer.retraite.gouv.fr. Les migrants font-ils du benchmarking, c'est-à-dire une étude de marché avant de choisir leur pays de destination? Voilà ce qu'a estimé en tout cas Gérard Collomb hier, le ministre de l'Intérieur, devant la commission des lois du Sénat. Il estime que les migrants se dirigent vers les pays dont les législations sont les plus fragiles, inadmissibles et honteux pour plusieurs sénateurs de gauche. Le clap de fin pour Whirlpool à Amiens, l'usine de fabrication de sèche-linge qui avait été l'un des enjeux de la présidentielle 2017, ferme définitivement ses portes ce soir. L'enseigne américaine délocalise sa production en Pologne sur le site. Il sera repris, ce site, par la société WN. Sont conservés 174 des 278 emplois. 15 euros le ticket pour une cagnotte d'un peu plus d'un million d'euros et surtout des gains destinés directement au patrimoine français. Présentation aujourd'hui du loto du patrimoine qui sera lancé mi-septembre. Autour de Stéphane Baer, 269 sites ont été retenus pour en bénéficier. Une communication d'Emmanuel Macron bien rodée fera le reste ensuite. Depuis le début du quinquennat, il s'affiche régulièrement dans des grands lieux d'histoire. Une mise en lumière de la part de l'exécutif, artificielle mais bénéfique, estime Françoise Benamou, professeure d'économie et auteure d'un rapport sur la valorisation du patrimoine culturel français.
Il y a une politique évidente de communication autour du grand patrimoine, à travers les invitations à des chefs d'État dans des lieux emblématiques. Cette instrumentalisation, elle sert manifestement un soft power qui est pas inutile, hein, qui était quelque chose qui était d'ailleurs dans, je dirais, l'ADN de la politique culturelle française. Hein. Le patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation du pouvoir, bien sûr. C'est une représentation de l'histoire. Ce sont des signaux qu'on envoie. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que ça n'est pas inintéressant. Bon, il ne faut pas non plus être angélique. C'est vrai qu'il y a une forme d'instrumentalisation, mais si ça peut servir à la fois la culture française, le patrimoine, et donner aussi de manière indirecte des retombées économiques, bon, bah écoutez, c'est une bonne chose.
Françoise Benamou avec Alexandre Locke, mais ce loto du patrimoine est-il vraiment rentable et novateur? L'idée d'utiliser les jeux de hasard pour préserver les édifices et les bâtiments en péril a déjà été expérimentée au Royaume-Uni, avec plus ou moins de succès, Antoine Gignot.
Le générique retentit sur les écrans 3 fois par semaine. Et à chaque fois, les organisations qui financent les arts, le sport et la restauration du patrimoine empochent 28% du prix des billets, soit plus de 8 milliards d'euros depuis 1994. Judy Klingman est directrice de la stratégie et du développement commercial de la Loterie du patrimoine.
Dès le début, on a financé la cour intérieure, puis la nouvelle galerie d'exposition du British Museum, pour laquelle on a donné près de 11,5 millions d'euros. Mais l'enveloppe moyenne de financement des projets est beaucoup plus petite que cela, parce que nous finançons un grand nombre de petits projets.
Depuis 25 ans, la loterie a aidé 42 000 structures, mais c'est une aide fragile. Ces 2 dernières années, les ventes de tickets ont baissé de près de 15%.
On ne peut pas se baser sur des revenus fixes. Il faut qu'on travaille pour mieux expliquer les bonnes choses qu'apporte la loterie. Et lorsque les gens comprennent à quoi sert l'argent, ils sont plus enclins à acheter des billets.
Et ces billets, de plus en plus difficiles à vendre, ne coûtent ici que 2,30 euros. Les tickets français pour la Loterie du patrimoine seront mis en vente à 15 euros.
En Espagne, Mariano Rajoy et son gouvernement sont sur la sellette. Le Premier ministre et son équipe font face à une motion de censure déposée par les socialistes. Elle est débattue aujourd'hui et demain au Congrès des députés. Rajoy est affaibli par un scandale de corruption, mais il assure qu'il ne démissionnera pas, pas avant son mandat qui court jusqu'en 2020. En Roumanie, c'est un coup dur pour la lutte anti-corruption. Le président roumain se voit contraint de céder face au Premier ministre. Il est obligé par la Cour constitutionnelle de révoquer la procureure du parquet anticorruption, Marie-Pierre Véro.
Le président Klaus Ioannis aura tout tenté pour protéger les instances judiciaires chargées de lutter contre la corruption, et notamment la procureure, célèbre dans son pays comme à l'étranger pour sa traque contre les hommes politiques véreux et ses critiques contre les projets controversés de réforme judiciaire. Cela fait des mois que la roi Codruța Kövesi est dans le collimateur du ministre de la Justice roumain. Fin février, il avait entamé une procédure de révocation, accusant la magistrate d'avoir enfreint la Constitution et nuit à l'image de la Roumanie à l'étranger. La pugnacité de la procureure a au contraire redoré l'image de la Roumanie en Europe. L'année dernière, son parquet a renvoyé devant les tribunaux 1 millier de personnes, dont 3 ministres, 5 députés et 1 sénateur. Le patron du Parti social-démocrate, condamné pour fraude et poursuivi dans plusieurs affaires, a même dû renoncer à briguer le poste de Premier ministre. Il trouve donc là sa vengeance, car la décision de la Cour constitutionnelle est sans appel. Le président, précise-t-elle, doit émettre le décret de révocation de la magistrate. Le gouvernement social-démocrate n'a pas tardé à s'en féliciter quand les soutiens de la procureure se mobilisent. Une pétition en ligne depuis le début de l'année a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Et les appels à manifester se multiplient. Par dizaines de milliers, les Roumains sont à plusieurs reprises descendus dans les rues depuis près d'un an et demi pour dire leur opposition aux lois concoctées par les sociaux-démocrates qui affaiblissent l'indépendance de la justice. L'Europe s'est aussi dite très préoccupée par la trajectoire que prenait le pays.
1 millier de personnes sont descendues par ailleurs dans les rues de Bucarest en Roumanie hier pour exprimer leur soutien au procureur et défendre la démocratie. En Italie, on attend et on prend le temps. Carlo Cottarelli n'a toujours pas présenté de proposition de gouvernement au président Sergio Mattarella. Il laisse le soin pendant quelques jours encore aux populistes de reprendre leur tractation qui débute donc aujourd'hui. Ils veulent mettre définitivement sur les rails la rencontre du 12 juin prochain à Singapour. Kim Jong-chol et Mike Pompeo sont face à face en ce moment à New York. Le bras droit du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fait le déplacement pour définir un ordre du jour partagé au sommet inédit avec donc Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. On en vient à une mesure qui fait trembler l'industrie automobile allemande. Pour la première fois, Hambourg, deuxième ville du pays, restreint la circulation de voitures diesel. L'industrie automobile et le gouvernement fédéral ont tout fait pour l'éviter, mais en justice, les associations de lutte contre la pollution de l'air ont gagné et d'autres villes pourraient suivre Sandy Dauphin.
Les voitures diesel commercialisées avant 2015, avant la norme Euro 6, sont interdites sur 2,5 km. Un petit périmètre, mais c'est déjà une révolution, explique Yann Dube, porte-parole environnement et énergie du Land de Hambourg.
Bien sûr qu'il y a de la critique. Ces mesures sont modérées. Seulement sur des petits tronçons sur le réseau de route à Hambourg, on se trouve au milieu des positions des critiquants et des gens qui disent que ça ne suffisait pas.
Objectif, baisser les taux de dioxyde d'azote qui dépassent les normes européennes. Le Land de Hambourg aurait préféré d'autres solutions pour réduire la pollution des pots d'échappement. Il se dit victime du Dieselgate, l'affaire des moteurs truqués et de l'inaction de Berlin.
Le gouvernement fédéral n'a pas tiré la leçon du Dieselgate. S'il n'y avait pas eu les tricheries sur les gestions des moteurs diesel, ça ne serait pas nécessaire de mettre en place des restrictions.
Après Hambourg, la justice pourra contraindre d'autres villes allemandes à limiter la circulation des diesels. Fin février, la Cour administrative fédérale a en effet donné raison à une association écologique contre les villes de Stuttgart et de Düsseldorf.
Un ciel particulièrement orageux est prévu encore ce jeudi. Ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA, jusque sur l'ouest et l'est de la France d'ailleurs dans l'après-midi. Les températures comptaient 16 degrés à Cherbourg et Toulon, 19 à Lille, Bordeaux, Lyon, 21 à Paris, 22 à Nice, 24 à Strasbourg.